Bonjour et bienvenue dans Apple Différemment. Apple Différemment particulier cette semaine. En fait, on accueille beaucoup d'oiseaux dans l'émission et Audrey, autrice youtubeuse Apple. Comment vas-tu, Audrey?
Eh bien, moi et mes oiseaux allons bien. Oui, vous allez entendre des petits oiseaux si vous tendez vraiment l'oreille, puisque c'est le printemps, que j'ai un grand jardin et que ça piaffe toute la journée. Donc malheureusement, à part m'enfermer dans une boîte hermétique et isolée, je ne pourrais pas enlever ce bruit, et même dans mes tutos YouTube, on les entend, donc voilà, c'est cette saison.
Magnifique, magnifique. Ben moi, pour ma part, c'est Matt, alias prof du web, créateur de podcast et fanboy, même si on n'aime pas nécessairement le terme, on va dire enthousiaste de la marque Apple, peut-être, on va peut-être utiliser peut-être plus ça comme ça.
Ouais.
On a des retours, évidemment, vous écoutez un podcast audio, ce qui fait ressortir le podcast audio, c'est de mettre des commentaires. Évidemment, quand on parle de commentaires dans Apple Différemment, on veut des 5 étoiles minimum avec que des gentillesses. Et on en a plein, comme par hasard, on les demande et on en a plein. Ça va bien. Audrey, je te laisse lire le premier.
Oui, alors on a Nizarkani qui nous dit « Merci à vous deux pour ce plaisir mensuel, vivement le mois prochain ». Merci.
El Koubiak qui nous dit « Bonne humeur et découverte, un des meilleurs podcasts consacrés à Apple. Bonne humeur, explication claire, conseil, tout est abordable, même pour un non-initié, car on ne vous laisse pas dans le flou. C'est ce que j'apprécie beaucoup. J'écoute en famille, un vrai bonheur chaque fois. Merci de continuer comme cela. » Ben, merci à toi, El Koubiak. Et puis, peut-être un dernier, je te laisse Audrey sur le dernier.
Oui, alors c'est Nanar Tétard. Alors déjà, Nanar Tétard, j'adore ton pseudo. Alors, super podcast, les actualités et la culture Apple sans se prendre la tête, de bons animateurs et de bons invités qui discutent juste simplement. On ne voit pas le temps passer et on aimerait en avoir toujours plus. Bonne continuation.
Ben, ça fait plaisir parce que c'est en plein ce qu'on veut faire. C'est en plein ça. Passer un bon moment puis parler des choses qu'on aime. Mais peut-être qu'on va commencer par quelque chose qu'on aime moins cette semaine. Audrey est en galère, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe, Audrey?
Eh bien, il se passe que l'an dernier, je me suis acheté une Apple Watch série 3, qui est toujours au catalogue chez Apple, hein, je le précise, c'était pas un produit acheté d'occasion ou plus vendu par Apple depuis des années. Hein, c'est toujours un produit au catalogue d'Apple. Et clairement, les mises à jour de la montre, donc les mises à jour de WatchOS, sont une vraie galère, puisque à chaque fois, désormais, depuis WatchOS 7, quand on veut faire les mises à jour, que ce soit la version de WatchOS 7 complète ou les mises à jour intermédiaires, eh ben, on doit déjumeler et effacer la montre pour pouvoir la mettre à jour, puisque elle dispose de 8 gigaoctets d'espace de stockage, donc c'est peu. Mais Apple fait vraiment pas d'effort. En gros, ils nous disent installation impossible, il faut déjumeler et effacer la montre pour faire les mises à jour. Et le pire, c'est que même une mise à jour de 300 mégaoctets, donc une petite mise à jour, va entraîner le même genre de problème. Et du coup, ben je râle et je pense que je suis pas la seule, parce qu'on achète un produit... Enfin, les gens qui achètent une Apple Watch 3 aujourd'hui, se disent logiquement, comme on le dit depuis des années, que il va y avoir des années de mise à jour. Voilà, donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi Apple continue à vendre cette montre alors qu'elle est compliquée à mettre à jour. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font pas les mises à jour parce que c'est trop compliqué et c'est trop galère, quoi. C'est long.
C'est long. Ben moi, c'est la raison pour laquelle j'avais switché sur la dernière Apple Watch. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait longtemps maintenant que il y a cette problématique-là. Si vous voulez garder votre mise à jour de montre, la garder tout le temps avec les dernières fonctionnalités, ben il faut absolument tout désinstaller, ce qui est une hérésie. On ferait pas ça avec un Mac, hein. Effacer le Mac à chaque fois qu'il y a une mise à jour pour pouvoir mettre la mise à jour, c'est absurde. Je vois pas pourquoi on fait ça avec l'Apple Watch. Je suis vraiment d'accord avec toi. Pourquoi ils la gardent encore au catalogue s'ils donnent pas d'amour? Je pense que moi, je vous conseillerais, si vous avez une Apple Watch à acheter d'entrée pour entrer dans l'écosystème, d'y aller avec la SE. Là. Je peux pas conseiller moins que ça maintenant.
Oui, bien sûr. Oui, c'est celle-là. Si vous, le plus petit budget, le meilleur rapport qualité-prix, ça sera l'Apple Watch SE aujourd'hui en 2021. Alors, en plus, l'Apple Watch série 3, la mienne, elle me convient parfaitement. Si tu veux, j'ai pas envie de changer. Elle me suffit pour faire du sport, pour faire mes pas la journée. Enfin, elle me suffit pour ce que j'ai à faire. et pour les besoins que j'ai. Donc, clairement, je pense que là, je vais faire un peu de résistance. je vais essayer de pas succomber et de pas en avoir marre et de pas changer d'Apple Watch. Mais là, je suis pas trop OK avec Apple parce que je crois que c'est bien la première fois qu'on a ce genre de comportement et ce genre d'obligation pour faire les mises à jour, quoi. Donc, c'est décevant. Je suis déçue, Apple. Si tu nous écoutes, je suis déçue.
C'est rédhibitoire, t'as bien raison, à l'usage d'une montre. Surtout que on a plusieurs mises à jour dans un mois, là. Des fois, on a deux ou trois, là. Alors, c'est vrai que ça commence à être compliqué. On va éliminer le négatif, puis on va revenir au positif après, si tu veux bien. Moi, j'ai un coup de gueule par rapport au service de podcast d'Apple. Bon, ça a l'air que je suis pas le seul. Apple a reconnu qu'il y avait des problèmes en ce moment. Alors, le service de podcast d'Apple, faut que vous compreniez que il y a l'application podcast et il y a le service de podcast. Le service de podcast, essentiellement, ce qu'il donnait, c'était un accès aux statistiques, c'était le fait de pouvoir enregistrer son podcast, d'aller suivre les notes, d'aller suivre toutes sortes d'éléments de suivi pour son podcast. Et dernièrement, Apple avait annoncé qu'on allait pouvoir avoir d'ajouter des émissions à travers cette plateforme-là, des émissions payantes, d'avoir des revenus, et ainsi de suite. Alors, boum! D'un seul coup, Apple recule sur les dates de sortie, retarde les dates de sortie de ces applications-là. Oups, Audrey, là, on t'entend très, très bien. Là, on t'entendait trop bien. Là, c'est parfait.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Je pense que t'as fermé ton micro, ouvert ton micro, hein, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Ah, c'est les oiseaux?
En fait, c'est que ton micro... Là, vous participez à l'enregistrement, là, vous êtes vraiment avec nous. Là. En fait, c'est quand t'es arrivé, Audrey, ton micro, le volume, le gain est au maximum. Alors, ça a fait un bruit infernal dans nos oreilles. Je ne couperai pas ça au montage.
C'est parce que je gesticule sur ma chaise et ma chaise grince. Je vais devoir faire une cagnotte pour m'acheter une chaise. Je plaisante, bien sûr, mais en tout cas, j'avais coupé mon micro pour pas te déranger. Et là, je l'ai remis au même niveau qu'il était juste avant. Donc, c'est excellent. Assez bizarre.
Je vais terminer avec Apple Podcast. Apple Podcast, avant, c'était pour inscrire vos podcasts dans l'écosystème, dans la librairie des podcasts d'Apple. Et maintenant, ils avaient annoncé qu'on allait pouvoir enregistrer ces podcasts pour être rémunérés pour les créateurs et ainsi de suite. Bon, ben là, ils ont décidé d'arrêter de faire marche arrière. Et ils ont aussi avoué par le fait même que la plateforme était en bug, il y avait plein de bugs. Moi, quand j'y allais, il y avait des statistiques que je pouvais plus avoir, il y avait des choses que je ne pouvais plus avoir. Alors, c'était plutôt moyen. J'ajouterais aussi au fait que l'application était plutôt pénible. La nouvelle version de podcast est pénible au niveau de l'interface. Vous remarquerez dans l'interface, quand vous faites une recherche sur un podcast, c'est beaucoup plus simple de voir le bouton lecture de l'épisode que le bouton s'abonner, qui est tout petit. Je trouve ça plutôt moyen. Fait que Apple reconnaît qu'il y a des problèmes en ce moment avec l'application, qu'il y a des problèmes avec le service. Bref, ça devrait s'améliorer, mais c'était mon coup de gueule du mois par rapport à l'application podcast. On met ça derrière nous, le négatif est passé, on va passer au pur bonheur. Et pour commencer le pur bonheur, Audrey nous a fait un nouveau logo pour l'émission, Audrey.
Mais oui, j'avais envie de changer un peu.
Bah ouais.
Parce qu'on n'avait pas changé depuis... je sais pas, 2 ou 3 ans au moins.
Ouais,
je crois
c'est
que
ça.
C'était voilà. Donc je me suis dit là, Apple repart dans une époque colorée. Hein, donc on va remettre de la couleur dans notre logo. Et puis on n'a pas trop discuté. on était assez d'accord sur l'aspect général. Tu nous trouvais un peu petit sur la vignette, mais bon, globalement, voilà. Dites-nous sur Twitter, par exemple, ce que vous en pensez @AppleDiff. Dites-nous si vous aimez le logo et puis si vous le trouvez plus joyeux, enfin voilà, moins bien. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez, puisque ce podcast on le fait aussi et majoritairement pour vous, donc il faut pas hésiter. Je viens d'ouvrir le lien que tu as mis, google.ca, tu sais, Apple Podcast est le pire service d'Apple.
Oui.
Et est-ce que tu as remarqué quelque chose sur la capture d'écran qu'ils ont faite?
Que moi j'ai fait ou qu'ils ont fait?
Non, non, dans leur article.
Ah, oh, je viens de m'en rendre compte sur l'article de Presse Citron. sur la tique de presse citron. Bon, alors, il y a deux erreurs. D'abord, la personne qui a fait l'imprime-écran, elle a mis le rendez-vous tech en premier, alors que c'est Apple différemment, malheureusement. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est que c'est pas la nouvelle pochette.
C'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc, en fait, pour expliquer aux gens qui vont pas cliquer sur le lien pour aller voir l'article, il y a une capture d'écran où on voit deux iPhones avec l'application podcast. Et en fait, il y a notre podcast dans la capture d'écran. Mais en effet, c'est le tout premier logo. Donc justement, je voyais ça, je me disais, mais de quand date cette capture? Puisqu'ils sont censés parler de la nouvelle version. C'est très bizarre. C'est très bizarre.
C'est là qu'on voit qu'il y a des problèmes avec la plateforme Apple de podcast. Bon.
Mais c'est pas. Alors, un petit détail, si vous voulez voir si une image est vraiment fournie par Apple. Là, tu vois l'heure qu'il y a sur l'iPhone, c'est 10h55 et 10h54. Donc en fait, ce sont bien des captures d'écran qu'ils ont rajoutées peut-être dans une image d'Apple, mais Apple fait toujours des captures d'écran à 9h41, l'heure où a été présenté le premier iPhone.
Et vous l'aurez appris dans Apple différemment. Parlant d'apprentissage, Audrey, tu nous fais un beau cadeau ce mois-ci, tu nous offres une formation gratuite parce que tu as lancé ta nouvelle plateforme. De formation en ligne, puis pour en faire la promotion, ben c'est un peu souvent qu'on voit ça. Là. Tu nous offres une formation pour nous montrer la qualité du reste qu'on pourrait se payer. Et la première, ben tu l'as dans les notes de l'émission. Vous l'avez dans les notes de l'émission. C'est une formation pour quoi, Audrey, que tu nous offres?
Alors, c'est une formation qui est extraite de la première formation que je vends. Donc, c'est une partie de cette formation pour apprendre à gérer les notifications sur Mac. Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont assommés de notifications, des choses qu'ils ne désirent même pas, tu vois, des notifications qui arrivent. Genre, à chaque fois que tu reçois un mail, t'as une notification. Voilà. Et en fait, je pense que c'est hyper important pour... bien utiliser son Mac, de savoir gérer cet aspect-là, les notifications. Donc, je me suis dit, c'était une partie que j'allais offrir pour faire découvrir ma plateforme, bien sûr, et puis pour que les gens voient, bien sûr, comment je présente cette nouvelle plateforme, une nouvelle formation, et puis, bien sûr, pour qu'ils puissent apprendre à gérer leurs notifications. C'était un bon moyen pour expliquer rapidement, en fait, moi, je vends des formations en ligne depuis 2019 à peu près sur des grosses plateformes comme Udemy ou Tuto.com. Et là, je me suis dit, parce que, bon, on va pas le cacher, hein, ils ont des commissions assez énormes et il faut vraiment en vendre beaucoup pour gagner un peu d'argent. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer ma propre plateforme de formation? Donc j'ai tout conçu ça sur 2 mois, là, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je suis assez contente du résultat, et donc c'est vraiment un espace où vous allez créer un compte pour accéder à vos achats ou à vos formations gratuites, et pouvoir comme ça, avec tel ou tel sujet, apprendre, comme là, à gérer les notifications, et puis j'ai mélangé pour vous former des pas à pas avec texte et capture d'écran et des vidéos de capture de mon écran. Wow. Donc voilà, en fait je trouve que c'est assez complet, et enfin je veux pas me lancer des fleurs, mais si tu veux, ça fait longtemps que je cherchais ce genre de solution où je pouvais mêler texte, image et vidéo. Et en plus il y a des quiz à la fin. Alors ça me fait trop marrer de faire des quiz pour tester les connaissances de l'apprenant, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. J'ai des très bons retours pour l'instant. Et voilà, donc n'hésitez pas à, si vous avez un Mac, hein, bien sûr, à vous inscrire pour la formation gratuite, qui est un extrait donc de la formation plus importante qui est vendue au petit prix de 15 euros.
Combien de temps ça prend pour faire la formation complète, Audrey, pour les notifications?
En tant qu'apprenant?
Ouais,
je pense que une 30 minutes.
30 minutes, t'as l'essentiel des notifications, ce qui fait que...
Je dirais même 20 minutes, ouais. En 20 minutes, t'apprends à gérer tes notifications comme un pro.
Comme un Jedi de la notification. Et au moins, là, vous allez ne plus voir les notifications ou toutes les voir. Vous allez pouvoir sélectionner celles qui sont réellement importantes. C'est vraiment un bon outil, les notifications. Encore faut-il savoir l'utiliser. Merci de la référence. Et puis, n'hésitez pas, hein, je pense que si chacun des auditeurs allait accéder à la formation, on serait heureux. Est-ce qu'on vise quoi? 100% des auditeurs? Un certain pourcentage, en tout cas. Allez faire un tour.
Je sais pas. Ouais. Donc, c'est sur plateforme.formationapple.fr. Donc, bien sûr, il y a les liens dans la description de l'épisode.
des vidéos, du texte pour s'en rappeler, des quiz pour confirmer son apprentissage. Si c'est pas merveilleux ça, je me demande bien où est-ce qu'on est. On va continuer dans les actualités. Il y a la chaîne YouTube de eCollection, Connection, en fait, qui a sorti un test sur en fait, l'iPad Pro M1 est sorti dernièrement et les premiers tests sont sortis. Alors, ça confirme un peu ce que je pensais. Les nouveaux iPad Pro sont excessivement rapides et puissants avec la nouvelle puce. Le clavier blanc est magnifique, mais tous les testeurs en arrivent à cette conclusion. La limite, c'est maintenant iPadOS parce que l'iPad en tant que tel n'a plus aucune limite technologique pour faire ce qu'on a à faire. Est-ce que tu as suivi certains tests de iPad, Audrey?
J'ai pas eu le temps dernièrement, mais en fait, c'est ce qu'on expliquait dans l'épisode précédent. Ouais. On en parlait avec Guillaume. Le problème, c'est iPadOS qui, quand on vient d'un Mac qui peut tout faire et qu'on se dit tiens, je vais passer sur iPad, 80% du temps pour voir ce que ça donne. En fait, on peut être vite frustré parce qu'il y a des choses qui manquent dans iPadOS. Et comme je pense que t'étais d'accord à dire que il faut que il s'améliore en termes de fonctionnalité tout en restant simple à utiliser pour tous les gens qui ont qu'une tablette et qui commencent l'informatique avec ça. C'est un juste milieu compliqué à trouver. Hein. Je pense qu'Apple galère bien à ce niveau-là.
On fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle mouture qui devrait arriver dans quelques semaines en version bêta de iPadOS pour voir une espèce de différenciation entre le Pro versus l'iPad normal pour que on puisse satisfaire à la fois des pros versus... Bon, puis tu sais, je me rappelle en plus que ce qu'on disait à dernier épisode, là, c'est pas les applications ou l'appareil qui fait que tu fais pro, c'est ce que tu en fais, là, tu sais, c'est l'utilisation que tu en fais. Mm-hmm. Mais ça reste quand même frustrant d'avoir un monstre, un foudre de guerre et de pas pouvoir avoir des applications qui peuvent suivre cette... En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de ça dans les prochaines semaines, là, la WWDC, évidemment. Prochain épisode, on va en parler, ça c'est clair. Audrey, cette semaine, tu nous as préparé le combat des OS, le combat des appareils Apple. Explique-nous ce que tu nous as préparé.
Alors en fait, je t'ai proposé de faire un dossier sur quel appareil pour quel usage. Je pense que comme moi, t'as dû avoir pendant très longtemps juste un ordinateur.
Ouais.
Et puis, donc on a pris des habitudes. On faisait tout avec nos ordinateurs, et puis quand les iPhones sont arrivés, et puis les iPads, et puis les Apple Watch, on s'est dit, c'est plus simple de faire telle chose avec tel appareil. Et du coup, je trouvais ça intéressant qu'on compare nos expériences, pour justement voir... j'ai listé en fait une quinzaine d'actions, d'usages qu'on peut faire avec nos appareils, et j'aimerais que toi et moi on fasse une petite un petit comparatif comme ça pour savoir si je te dis si tu veux écouter de la musique, quel appareil tu vas prendre naturellement.
Alors si j'écoute de la musique, quel appareil je vais prendre naturellement, c'est mon téléphone. Et maintenant, puis on va en parler un peu plus tard, depuis que j'ai le HomePod mini, je tape mon téléphone sur le HomePod mini et je fais la suite de ce que j'écoutais au téléphone en marchant ou dans l'auto directement à la maison. Alors, je te dirais, 90% du temps, c'est sur mon iPhone. Peut-être 10%, c'est sur... 5% sur la télé et puis l'autre 5% sur le HomePod. Ouais, ça serait ça, moi.
Mm-hmm.
Majoritairement, d'accord. Le iPhone. Et toi, Audrey?
Alors, moi, c'est plutôt l'iPad.
Oh.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai un bureau en L, tu sais,
ouais.
Avec une planche devant moi, puis j'ai mon petit studio sur le côté gauche, et je mets souvent mon iPad en position verticale comme ça, et je lance ma musique dessus, ce qui me permet en fait de contrôler ma musique juste avec ma main gauche. Enfin, en fait, ma musique est vraiment dispo là, l'écran est super grand, et l'iPad Pro, même si c'est un de 2018, il a vraiment un très bon son. Donc, des fois, j'utilise simplement l'iPad pour écouter de la musique et pas forcément le HomePod mini. Ça dépend de la durée de l'écoute, mais l'iPad, souvent, quand je travaille. Et puis, bien sûr, à la maison, globalement, ce serait plutôt l'iPhone sur les HomePod mini aussi.
Oui, HomePod mini, hein, ça devient une plateforme vraiment de prédilection. Mmh. Alors, iPad 1, iPhone 1, Mac 0 pour le moment. Alors, on note dans le combat. Publier un tweet, tu fais ça où majoritairement, toi?
iPhone.
iPhone, hein. Consulter les tweets iPhone. Ben, je vais dire pareil. Alors, là, présentement, l'iPhone est en train de gagner la guerre des usages. Parce que moi aussi, au niveau des tweets, consultation on va dire plus largement des médias sociaux, hein, Instagram, Facebook, Twitter, c'est pas mal aussi sur mon téléphone que je fais ça. Email, les courriels, tu fais ça par où, toi?
Envoyer un mail sur mon Mac.
Mail sur ton Mac?
Okay. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai mes vieilles habitudes de, où je me dis toujours, mes pièces jointes, mes fichiers, ils sont sur mon Mac, donc, Mac, ouais.
Alors.
Et toi?
Moi, c'est mitigé, je te dirais que, au niveau professionnel, c'est effectivement sur un ordinateur. Au niveau personnel, c'est sur mon iPhone, évidemment. Fait que je donnerais majoritairement, on va parler des usages personnels, je donnerais un point au iPhone, moi, et puis, l'iPad est toujours dans la course, mais c'est toujours le iPhone qui est en train de mener dans notre guerre.
Mais tu sais, ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que je me rends compte que, pardon, moi, si je veux écrire à une copine, si je suis sur mon Mac, je vais lui faire un mail. Et si j'ai que mon iPhone, je vais lui envoyer un message dans Message.
Ouais.
Et en fait, c'est incroyable à quel point on est ancré dans des réflexes et qu'on va pas utiliser forcément le même outil suivant l'appareil qu'on utilise. Donc c'est plutôt intéressant.
Ah, c'est embêtant.
Toi, t'envoies jamais de mail de ton Mac Mini?
Je les consulte, mais juste ceux du bureau. Oui, ceux du bureau, oui, mais pas les personnels. Personnel, je règle ça avec mon iPhone. Je te dirais que même la majorité du temps, je trie sur mon iPhone. Fait que ce qui reste à faire vraiment sur mon Mac, ben là, je c'est plus professionnel. Mais le Mac, c'est les podcasts et le travail. Je t'avouerais que ça se réduit beaucoup à ça, mais on va continuer, on va voir. Peut-être qu'il va gagner des points dans mon cœur. Pour visiter un site web, Audrey, tu utilises ton Mac, ton iPad ou ton iPhone?
Alors,
Personnellement, on va dire.
Ah, c'est pas facile. Ouais. Alors, je commence souvent sur l'iPhone, mais comme ça m'énerve, parce que tous les sites web sont blindés de pubs ou de... Enfin, c'est quasiment... T'as juste envie de partir par moment tellement t'as de publicité.
C'est vrai.
Donc... Si j'ai l'iPad pas loin, on va dire, je vais passer sur l'iPad, mais au bout d'un moment, je vais me dire, je trouve pas le bouton qui va bien, donc je finis sur mon Mac. En général, je remonte à l'étage dans mon bureau, et voilà. Donc, l'iPhone, je trouve que c'est le moins bon des trois.
On va dire que un point pour tout le monde, Audrey, dans cette catégorie-là. Tout le monde en a un petit peu pour son argent, hein. Je pense le Mac, l'iPad, l'iPhone, tout dépendant de ta journée, personnellement, tu switches aux trois, je pense, facilement.
Ouais, mais l'iPhone, quasiment jamais, parce que hormis les sites hyper bien faits où il y a vraiment un respect du visiteur et tout, il n'y a pas trop de pubs et pas voilà, mais ouais, l'iPad ou le Mac pour la taille de l'écran en fait.
Ben alors moi je suis comme toi, le Mac pour les sites web c'est le Mac. Pour la consultation d'informations versus une application. Et un site web, c'est vrai que depuis que RGPD est arrivé en France, c'est devenu la croix et la barrière. Je sais que c'est la bannière, mais la croix et la barrière pour consulter des sites. Parce que là, t'as l'icône, t'as le pop-up RGPD, t'as le pop-up bloque tes pubs, t'as le pop-up des cookies, t'as le pop-up pour t'enregistrer à la mailing list du site. Des fois, t'en as 4 ou 5 pop-up avant d'arriver au site, ça devient l'enfer. Alors, je préfère consulter sur Mac, effectivement.
Écrire une note. Alors, vas-y, commence.
Écrire une note, c'est définitivement sur un Mac. Définitivement, pour moi, c'est un Mac.
Toi? Ah ouais, intéressant. Alors, moi, souvent, les notes, ça me sert à, comme son nom l'indique, à noter des idées ou des débuts d'écriture. Enfin, et souvent, j'utilise la fonction dictée sur l'iPhone dans une note. Et puis, en général, je repars sur mon Mac, je reprends où j'en étais sur le Mac pour avoir mon vrai clavier et là, écrire super vite, quoi.
Donc, écrire dans une note, pour Audrey, ça se passe sur un Mac et pas sur un iPhone.
Ouais, mais écrire aujourd'hui, on peut écrire avec notre voix, tu vois.
OK, alors un point pour Mac, un point pour iPhone, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Publier un article sur le blog, ça, je veux pas croire que ça soit pas le Mac chez toi.
Ah oui, Mac, ouais, sûr. C'est obligé. T'as déjà vu l'interface de WordPress sur un iPhone. C'est inutilisable.
C'est le bordel, effectivement. Ouais. Alors, un autre point aussi pour le blog de mon côté, parce que je fais ça sur Medium, mais je fais ça à partir d'une note. Fait que oui, effectivement, Mac. Et là, mesdames et messieurs, on est ex aequo Mac iPhone avec iPad en retrait. On va voir ce qui ça va arriver dans la fin de l'épisode. Audrey, je te laisse continuer, puis...
Ouais. Enregistrer un podcast, tiens donc.
Ah ben, un Mac.
Sur le Mac, ouais.
Malgré qu'il y ait des belles applications, c'est sûr que c'est un Mac pour moi, c'est un Mac pour toi, Audrey?
Oui, parce ouais. qu'il y a le micro, en fait. Ouais. Comme on a tous les deux un micro professionnel ou semi-professionnel, il est branché en USB sur le Mac. Et même si le micro que j'avais acheté, le Raspberry, là, de Blue, ils m'ont fourni un câble USB vers Lightning. Mm-hmm. Mais ça n'a jamais vraiment très bien marché. Il y a des coupures. Donc, le Mac, ça reste l'endroit où le micro est branché le plus souvent. Donc, Mac. Alors, ensuite, enregistrer un rendez-vous.
Ah, enregistrer un rendez-vous, c'est une micro-tâche. Alors, c'est sur l'iPhone pour moi.
Moi aussi.
Oh, on
continue.
Il n'y
a pas photo avec, avec l'itinéraire dans plan. C'est parfait sur l'iPhone.
Bon, consulter un itinéraire, tu viens de le dire. Est-ce que tu fais ça sur Mac ou...
Ah, écoute, des fois, quand j'ai des clients qui m'appellent et qui habitent loin... j'utilise parfois plan sur le Mac puisqu'il est fourni et juste pour voir le temps de trajet en fait pour pouvoir donner une estimation du déplacement ça m'arrive mais très très rarement sinon sur l'iPhone.
Moi aussi pour moi c'est l'iPhone, ça c'est clair. Jouer, on joue où? Est-ce que tu joues à des jeux? Tu explique-moi.
Je joue à des jeux, alors des jeux, je vais me faire huer, mais des jeux de briques ou des trucs comme ça, tu vois, des jeux de...
Des casual gaming,
ouais. Ouais, voilà, de quand j'étais gamine, des casse-briques et tout, donc moi c'est... alors, quand je joue 3 minutes, ça va être sur l'iPhone, sinon si je me dis, allez, je me pose, et ça va être plutôt sur l'iPad. Et si je me pose vraiment, ça va être sur la Switch, mais bon, là, c'est pas dans notre liste.
Alors, c'est l'iPhone qui gagne et l'iPad pour toi?
Ouais.
Ah, OK. Ben, moi, c'est l'Apple Télé. L'Apple Télé.
Ah, ouais.
Ouais. Avec Arcade, on a acheté les manettes qui vont bien. Avec les enfants, on joue majoritairement sur Apple Télé. Ben, ma copine aime beaucoup dans Apple Arcade Bob l'éponge. Et un nouveau jeu de chat. J'essaie de retrouver le nom qui est vraiment. Elle vire folle avec ça. Alors, elle m'écoutera, elle sera fâchée que j'ai dit qu'elle était folle. Mais quand elle joue au chat sur Apple Arcade, ça devient pénible. Et puis moi, dernièrement, j'ai découvert une application, un jeu sur Apple Arcade qui est vraiment chouette. C'est un jeu de stratégie. Ça s'appelle Mini Motorway. Si vous avez aimé Mini Metro, Mini Metro Plus, de la gestion de trains et de passagers, ben c'est un peu l'équivalent dans Mini Motorway, c'est de la gestion de trafic. On crée des rues, on essaye d'éviter les embouteillages et ainsi de suite. Alors, c'est des chouettes applications qui sont sur Arcade, mais nous, c'est sur Apple Télé que ça se passe. Alors, il n'y a pas de point pour les autres, pour les plateformes, pour moi.
Consulter son compte bancaire.
Tu vois, il y a encore des trucs où je me dis, je suis vieux, je pense. J'aime bien faire ça sur un Mac.
Ah ouais, alors moi, je faisais ça aussi sur le Mac, jusqu'au jour où l'application de ma banque sur l'iPhone a intégré Face ID. Et où là, je me suis dit, sur l'iPhone, je suis identifié automatiquement avec mon visage. Et ouais. Du coup, j'ai plus mes codes à taper et je crois même que je les ai un peu oubliés. Ça va être terrible, ça va faire des catastrophes. Mais en gros, moi sur l'iPhone maintenant. Parce que pour moi, c'est passer par une appli, pour moi, c'est plus sécurisé que par un navigateur et un site web. Et il y a en plus l'identification qui se fait avec Face ID ou Touch ID si vous avez un iPhone plus ancien.
Ouais, effectivement. Je te dirais que je suis peut-être les deux, mon Mac et mon iPhone, parce que je pense que les transferts que je fais entre amis, les paiements de choses qu'on achète, des fois, je passe par l'application mobile. Fait que je vais donner aussi un point au iPhone, mais effectivement, Je suis assez enclin, même si c'est juste une impression, à dire que c'est plus intéressant d'avoir le Face ID que de taper son mot de passe, effectivement.
Et l'iPhone est en tête, là. Dis donc, je pensais pas.
L'iPhone est en tête, Audrey. Mais il reste encore quelques rounds et je te laisse continuer.
Alors, toi comme moi, je pense qu'on fait de la veille informatique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que quand on est dans le secteur de la tech comme nous, la technologie, on se doit, hein, on va dire ça, de se maintenir informé des nouveautés et tout ça. Donc, je pense qu'on a tous un peu plusieurs sites qu'on consulte tous les jours. Alors, quand j'ai écrit ça, notre veille informatique, pour moi, c'était par les réseaux sociaux ou par les applications comme Mac Génération, enfin, e-génération. Et en fait, non, moi, je me rends compte que c'est sur le Mac que je fais ma veille informatique.
Ah, OK. Moi, c'est sur l'iPad. Il n'y a pas d'autre endroit où je fais ma veille. C'est principalement sur l'iPad. Cette phrase est bizarre, mais vous la comprendrez. Là, je fais majoritairement ma veille sur l'iPad. l'iPhone, c'est les médias sociaux, mais bien souvent, je l'envoie pour mon iPad pour le reconsulter plus tard. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à lire sur un iPad qu'un écran de Mac ou un écran d'iPhone. Je trouve que le médium est bien adapté, moi, à la lecture. Puis quand on fait de la veille, c'est intéressant d'avoir un médium adapté.
Ouais, l'iPad pour la consultation, c'est quand même ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Il n'y a rien à dire.
Ouais. Effectivement.
Alors, regardez une série TV.
Alors, si on retire majoritairement les Apple Télé à la maison, moi, c'est sur iPad.
Ouais, moi aussi. Parce que mon iPhone 12 mini, il est un peu petit maintenant. Ouais. puis, je vieillis un peu, donc l'iPad, et bien bah, sinon, clairement, 95% du temps, c'est l'Apple TV, mais... Ouais.
L'iPad augmente. J'avais écrit coup de gueule sur le deuxième, mais on l'a déjà fait le coup de gueule, c'était par rapport au podcast.
Qu'est-ce qu'on râle aujourd'hui, hein?
Ouais. Ben, en fait, la prochaine section, c'est écouter des podcasts. Ben, moi, c'est effectivement 100% du temps, ou presque, sur iPhone. Toi, t'écoutes tes podcasts où?
Sur iPhone et en voiture.
Ouais,
c'est ça. Exclusivement, parce que sinon, je peux pas... Quand on fait un travail comme le mien, où en gros, soit tu écris... soit tu enregistres ou soit tu... Enfin, tu peux pas écouter quelque chose qui parle en même temps. J'y arrive pas. Du coup, c'est dans la voiture où là, je suis à 100% à l'écoute.
Des achats sur l'Apple Store, c'est une drôle quand tu fais des achats, tu parles des livres, tu parles de la musique, c'est ça?
Non, j'ai pas mis l'App Store, j'ai mis l'Apple Store. Donc, quand tu veux t'acheter ton Mac Mini, par exemple, tu es passé par où?
Le téléphone. Ouais.
Ah ouais?
Ouais. Mes coûts d'achat se font rarement en dehors de l'iPhone. Que ce soit Amazon, que ce soit l'Apple Store, ou que ce soit d'autres trucs qu'on achète en ligne, je passe par l'iPhone.
Ah ok, alors sur ce coup-là, c'est moi qui suis un peu vieux jeu, parce que moi, tout ce qui est lié aux achats, c'est sur le Mac, et les achats, pas les achats dématérialisés, hein, les vrais achats d'objets ou de... Pour moi, c'est le Mac parce que, je sais pas, je pense que ça me rassure. Je fais ma carte bancaire virtuelle avec l'iPhone, mais j'achète tout le temps sur le Mac. Je sais pas, c'est un truc sérieux, là. Je dépense des sous, attention.
mais il va falloir comprendre le fait que avant, tu nous as expliqué que tu allais sur ton site de banque via l'application sur ton iPhone. Et puis, pour d'autres achats, tu préfères aller sur ton Mac. Ouais. Pourtant, tu disais que c'était plus sécurisé, Audrey. Faut de la cohérence, là. Faut de la cohérence.
Ouais. Mais la cohérence, c'est que quand j'achète un produit, moi, je lis tous les détails, les descriptions. Et du coup, tu vois, quand tu achètes un Mac, par exemple, sur le site d'Apple, tu as les options de configuration. Et je trouve que sur l'appli, sur le téléphone ou sur l'iPad, je trouve que c'est un peu moins clair pour moi. Hein. Après, on est tous différents. Mais moi, quand je fais des achats, c'est clair que j'aime bien regarder tout en détail, les avis et tout. Je mets des plombes, en fait, avant de me décider. Donc, je suis sur le Mac. Non.
Le prochain point, je l'aime particulièrement.
Mm-hmm. Alors, quel appareil, tu utilises pour méditer?
L'iPhone. iPhone. Est-ce que toi, c'est pareil?
Oui.
L'iPhone, hein? Et tu utilises quoi
l'iPhone,
pour
méditer? Ouais, alors justement, j'allais dire, j'ai une vieille méthode qui va te faire trop bizarre. C'est qu'en gros, j'avais acheté un livre de Christophe André, qui est un médecin français qui est très connu dans le monde de la méditation. Et dans son livre, il y avait un CD où il s'était enregistré pour avec des exercices de méditation. Mmh. Et à l'époque, j'avais mis le CD dans mon ordinateur et j'avais importé les pistes. J'ai l'impression de parler de l'an 40, tu sais. Mais non, à l'époque, voilà, on avait des Mac avec des lecteurs CD, donc j'avais importé toutes mes pistes de méditation, et maintenant je les ai transférées sur mon iPhone dans l'application musique, et du coup je suis toujours avec mes pistes, j'ai pas d'appli, j'utilise mes pistes de méditation de Christophe André comme ça.
Ok, ok, intéressant.
T'as une appli toi?
Oui, oui, ben d'ailleurs, tiens, on va faire de la pub un peu pour ReLife, on va en profiter, sur Insight Timer, qui est une application... je fais d'autres podcasts et un podcast que je fais, c'est avec Guillaume Vendée, ça s'appelle ReLife. C'est un podcast sur l'amélioration du quotidien, le life hacking et tout ce qui va bien. Et on a souvent fait de la promotion, on fait toujours de la promotion de la méditation. Puis, bon, on utilisait la montre, l'application Respirer qui peut aider. Hein. Quand on parle de méditation, l'application Méditer est une bonne entrée en matière si vous l'avez sur votre montre. Il y en a aussi sur téléphone, hein, des applications pour vous aider à méditer, mais à partir de votre respiration. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, moi, je vous conseille Insight Timer, I-N-S-I-G-H-T Timer, T-I-M-E-R. C'est une application qui est totalement gratuite. Il y a un forfait payant, mais vous n'en avez pas besoin. Elle comprend, alors... un élément de méditation avec des horloges puis des gongs, tu sais, des espèces de cloches qui sonnent, comprend aussi des micro-formations pour les débutants, de la méditation guidée, de la méditation pour vous aider à dormir, des podcasts qui sont en lien avec la méditation, le mindfulness, et vous pouvez vous créer des communautés. Alors vous pouvez vous créer des groupes, des cercles. Et il y a des lives à travers ça. Alors, je vous dirais que j'en ai fait beaucoup hein, d'applications pour la méditation. Dans mes besoins à moi, c'est vraiment le summum. Elle est francisée. Elle va très bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts en français, d'entrée en matière de méditation en français. Alors, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez vous créer des groupes, pour participer à des lives ou même acheter des formations pour la méditation. Fait que franchement, moi, c'est Insight Timer. Puis, elle est vraiment mieux faite sur iPhone que sur Mac. On dirait que, pas sur Mac, mais sur... bon oui, en fait, c'est un site web. Je pense que ça existe aussi sur Android, mais je saurais pas m'avancer. Elle existe sur iPad, elle existe sur iPhone, et pour le Mac, c'est le site web. Mais franchement, elle est bien faite sur iPhone. Je vous la conseille fortement et très, très chaudement.
Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne méditent pas, eh ben, c'est quelque chose qui peut carrément changer votre vie, quoi. Donc, ça paraît con de dire ça, mais moi, ça m'a aidé plein de fois dans ma vie et je m'en sers plus comme un décontractant que comme quelque chose que je fais tous les jours. Mais en tout cas, c'est toujours bénéfique et essayez. C'est toujours bien d'essayer au moins une fois et voir ce que ça vous fait. Et c'est... Enfin, on est d'accord, hein, Mathieu, Matt et moi, là-dessus pour dire que méditer, c'est que du positif. Enfin, ça fait vraiment du bien, quoi.
Ouais, écoutez, il y a plein d'autres applications pour vous aider à méditer. Des fois, ça peut paraître surréel, ça peut paraître d'être ésotérique, d'être une religion. Ayez pas peur de ça. Je vous dirais que si vous voulez comprendre un peu ce que c'est, peut-être essayer des trucs, il y a sur Netflix la télésérie Headspace qui est faite par la compagnie qui fait l'application Headspace, qui a fait une télésérie très bien faite. Vous pouvez même la faire avec les enfants qui vous expliquent comment y accéder, comment faire des étapes de méditation. Je vous recommande chaudement aussi cette télésérie-là si vous avez Netflix. Headspace, ça s'écrit H-E-A-D-S-P-A-C-E. Et pour vrai, ça vous fait gagner en sérénité intérieure si vous avez besoin. Si vous êtes anxieux, si vous avez du stress ou des choses comme ça, peut-être envisager d'aller vous informer là-dessus. C'est peut-être intéressant de regarder ça. Fait que je suis vraiment enclin avec ce que tu viens de dire, Audrey.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il nous reste deux usages. Donc, regarder des photos.
Regarder des photos, c'est sûr que c'est sur l'Apple TV. Ça se ça se fait pas ailleurs pour moi, pour vrai là, ou très rarement sur l'iPhone. En fait, je vais donner un point au iPhone, mais c'est juste là que ça se fait.
Et tu envoies l'écran de ton iPhone sur l'Apple TV ou tu passes directement par l'application sur l'Apple TV, l'application photo iCloud?
Moi j'ai le forfait, tu sais, le gros forfait avec le maximum d'espace, ce qui fait que toutes mes photos sont sur iCloud. Alors je passe par l'application d'iCloud là-dedans. Et puis ce qu'on se fait souvent avec ma copine, c'est qu'il y a une application, une fonctionnalité dans l'application photo de se créer des moments, des petits vidéos avec l'intelligence artificielle de Apple. Et ça fait des super chouettes moments. Ça retrouve des vieilles photos. Ça fait des photos thématiques. Fait que nous, on l'utilise vraiment comme ça pour profiter de nos photos qu'on a prises dans le passé. C'est d'utiliser l'application qui est à l'intérieur de photos dans l'Apple TV pour se créer des beaux petits moments comme ça.
Ouais, OK. Moi, c'est plutôt... sur l'iPad. Ah, attends. Ça me donne... alors, ça dépend. Si par exemple, je suis allée visiter un endroit et que je rentre et que je montre à ma compagne ce que j'ai vu dans la journée, je vais... Bizarrement, tu vois, je vais avec AirPlay envoyer les photos de mon iPhone sur l'Apple TV. En recopie vidéo. Et je vais faire défiler les photos comme ça et lui montrer. Je vais pas aller dans l'application photo sur l'Apple TV. Et sinon, majoritairement, c'est quand même sur le Mac parce que quand je regarde mes photos, c'est pour faire du tri et les retoucher en même temps. Donc, ouais.
Alors, le Mac a gagné un point là-dessus. Puis la dernière catégorie, Audrey?
Ah, envoyer un message ou un SMS.
Je pense qu'il n'y a pas photo. Pour moi, ça va être l'iPhone.
Eh ben moi, 80% du temps, c'est sur le Mac.
Oh! OK.
Ouais. Parce qu'en fait, je suis globalement toute ma vie devant mon Mac. Et je bénis Apple de nous avoir mis messages dans macOS où on peut envoyer des e-messages, mais aussi des SMS à travers l'iPhone. Et franchement, je gagne un temps fou à taper mes messages au clavier. Et c'est surtout pour ça. Après, bien sûr, quand je suis pas au bureau, j'utilise l'iPhone, mais en général, c'est plutôt des SMS à des clients ou des amis et tout ça. Donc, c'est en journée et c'est sur le Mac. Ouais.
Alors, qui a gagné, d'après toi, Audrey?
Ah, mais l'iPhone, hein?
Ah ouais, l'iPhone. L'iPhone, avec nos deux notes, je serais intéressé s'il y a des auditeurs qui ont calculé ce qu'Audrey dit, Mathieu dit, pour voir si on a des différences. Mais tous les deux ensemble, on est majoritairement iPhone. En second, Mac, puis en dernier, iPad. Moi, mon analyse, là, puis ça n'engage que moi, c'est que l'iPhone, c'est vraiment pour des usages rapides, des micro-tâches. Le Mac, c'est vraiment pour des tâches où on va travailler longtemps. Puis l'iPad, c'est plus dans un mode consultation qu'on utilise ça. Je sais pas si tu as la même analyse que moi par rapport aux trois appareils dont on parle.
Ben si, parce qu'en fait, c'est aussi mon usage quotidien. C'est-à-dire, je travaille sur mon Mac. Après, je dis pas que les iPads, on peut pas travailler avec. Hein. On n'est pas du tout dans ce débat-là. Pour moi, au quotidien, c'est vraiment mon Mac qui est mon outil de travail. Et l'iPad, vraiment... plus détente, tu vois, pour moi, ça reste quand même un... Je peux regarder des séries, voilà, faire des jeux, ou alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Enfin, je sais plus, écouter de la musique, enfin voilà, pour moi, c'est plus un appareil loisir. Et l'iPhone, c'est pour les... Bon, de toute façon, on est toujours greffé à notre iPhone en même temps, donc pour tout le reste, c'est l'iPhone qui il sait tout faire en même temps, presque, donc... c'est dommage qu'il y ait la navigation web qui pêche sur l'iPhone, et que globalement, ce sont les applis qui le sauvent, hein, parce que... Ouais. Si on n'avait pas toutes les applis, on serait vite retourné sur notre Mac. Donc, c'est bien la clé du succès de l'iPhone, c'est les applis. Hein.
Alors, on va vous demander, on va faire un exercice de faire le même test qu'on a fait. On va vous mettre les critères dans les notes de l'émission. Et puis, ben, répondez, puis donnez-nous vos notes. Et puis, peut-être challenger les usages ou l'analyse que j'en ai fait. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez, hein, dans les notes de l'émission, cliquer sur le répondeur et nous laisser un message vocal. Alors, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les usages dont vous faites. Peut-être qu'on est pas encore assez en avance et puis qu'on devrait, à l'avenir, utiliser plus l'iPad. J'en suis d'accord. Peut-être qu'on va se corriger. Mais il faut qu'iPadOS s'améliore, dans mon cas, pour les usages beaucoup plus pro que ce qu'il peut faire là. Écoute, Audrey, on voulait peut-être parler de Handoff aussi avant de quitter pour qui est le bon lien, en fait, entre les trois appareils. C'est quoi Handoff?
Alors, Handoff, c'est une fonctionnalité qui existe depuis quelques années maintenant, qui permet justement de commencer quelque chose sur un appareil, comme votre iPhone. Et, par exemple, si vous commencez à écrire une note sur votre iPhone. Sur votre Mac, vous allez avoir l'icône en bas, là, dans le dock, en bas de l'écran, vous allez avoir l'icône de note iPhone qui va apparaître. Et vous pouvez immédiatement cliquer dessus pour reprendre là où vous en étiez sur l'iPhone, mais du coup, cette fois-ci, sur votre Mac. C'est un moyen de transférer les usages d'un appareil à un autre, qu'Apple a intégré depuis longtemps, et il y a des trucs super bien, comme Sidecar, enfin, il y a plein de fonctions hyper intéressantes qui sont basées sur Handoff, donc en gros, c'est sans les mains. Sans les mains, vous pouvez passer d'un appareil à un autre et continuer ce que vous étiez en train de faire, écrire un mail, et tout ça, ça marche avec les applis d'origine Apple, qui sont pleines de qualité. Je pense qu'il faut vraiment les exploiter à fond avant de se dire qu'on va télécharger autre chose. Et c'est un peu le fer de lance de ce que je fais sur YouTube, à dire, mais vous avez vu que dans Notes, on peut faire ça, c'est vachement bien. Voilà, et donc Handoff, et ben, c'est le lien entre tous vos appareils, et c'est vraiment une belle fonction de continuité.
Ouais, ça c'est clair. Tu sais, un usage que je fais fréquemment, des fois je tombe sur un lien intéressant, je vois que le site est mal adapté, je suis sur mon iPhone par exemple, je vois que le site est mal adapté, j'ouvre mon iPad ou j'ouvre mon Mac et je vois l'icône de Safari sur mon iPhone, je clique dessus et ça l'ouvre automatiquement dans mon appareil. Moi c'est souvent que j'utilise ça comme ça, ou les SMS même. Fait que c'est vraiment quelque chose qui te permet de continuer à faire ce que tu faisais sans avoir à redémarrer l'application, retourner sur l'OTT puis recommencer. C'est vraiment dans l'esprit, tu commences quelque chose, tu le continues sur l'autre appareil et tu le reprends sur un autre sans avoir à transférer. C'est pour ça sans les mains un peu qu'on appelle. Bon, ben écoute, fantastique.
C'était intéressant.
Ouais, puis j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats des auditeurs par rapport à ça. Écoute, moi, le mois dernier, j'ai fait quelques achats chez Apple. Alors, j'ai acheté les AirTags, j'ai acheté la nouvelle télécommande d'Apple. J'ai pas acheté la nouvelle Apple TV, mais j'ai acheté la nouvelle télécommande et j'ai acheté le HomePod mini. Et j'ai fait un test comparatif parce que moi, je suis un gars de chez, et je vais le dire tout doucement, d'Alexa. À la maison, j'ai juste des Alexa d'Amazon. Mais j'ai quand même voulu tester, comparer les deux appareils. Et je voulais te faire un petit retour par rapport à ce que j'ai de mon Echo 4 d'Amazon versus le HomePod. Et je voulais revenir là-dessus parce que j'ai fait beaucoup d'échanges sur Internet quand c'est sorti le HomePod. Et j'étais assez dubitatif, tu sais, je doutais de la capacité sonore de cet appareil-là quand on regarde et quand on la compare à Amazon. Alors, ce que j'ai fait, c'est un petit test comparatif. Je voulais juste replacer les deux appareils dans leur réalité. On parle d'assistants connectés, de petites consoles, là, de petits haut-parleurs qu'on installe à la maison, là, qui sont connectés constamment sur Internet pour écouter de la musique, pour faire un peu de domotique, allumer une lumière, éteindre une lumière. Il faut évidemment avoir les appareils qui vont bien avec. Ajouter des notes, hein, des tâches, tu sais, dans votre liste de to-do, là, dans vos tâches à faire, ça, vous pouvez faire ça. Ça fait toutes sortes de petites fonctionnalités, c'est pas des grosses fonctionnalités. Je te dirais que mon usage premier, c'est chez moi utiliser la domotique, l'utiliser et écouter de la musique. Alors j'ai vraiment comparé ces deux produits-là sur la musique.
Donc on parle du HomePod mini, hein, le petit.
Le HomePod mini, oui, effectivement. Désolé. Mm-hmm. Alors on compare le HomePod mini versus le Alexa de quatrième génération, le tout dernier. Bon, alors le design des deux, c'est pas compliqué, c'est des bouboules. On a des bouboules. C'est deux boules qui se physiquement se ressemblent. Il y en a une qui est beaucoup plus grosse versus l'autre. Alors il y en a une qui a trois haut-parleurs versus le HomePod mini qui en a qu'un. Ils sont disposés de manière différente. J'étais vraiment curieux de voir la qualité sonore. J'ai douté beaucoup des gens qui disaient « Waouh, la qualité sonore du HomePod mini est surprenante ». Je trouvais que c'était peut-être un effet de fan de la marque d'Apple. Tu sais, je me disais « Waouh, ça se peut pas, l'autre est vraiment plus gros ». Le diamètre du haut-parleur, je vais y arriver. Le diamètre du haut-parleur du Amazon est plus gros. En plus, il y a deux petits tweeters pour les aigus. Il y a une spatialisation du son du côté de chez Amazon. Chez Apple, c'est plus un haut-parleur qui est dirigé avec des espèces d'ailettes qui dirigent le son de manière passive. C'était pas les mêmes façons de faire. C'est pas du tout la même façon de faire pour envoyer le son. Alors, avant de vous dire lequel des deux je préfère, faut vraiment que je les décrive. Le premier a une espèce d'interface, le HomePod mini a une interface lumineuse sur le dessus dans lequel on peut lever, descendre, diminuer le son. Le deuxième, c'est des boutons physiques. Dans tous les cas, le design est très beau. Fait qu'au niveau de design, ils sont ex aequo dans mon cœur à moi. J'aime les deux. Ils sont physiquement très jolis. Au niveau des usages, ben évidemment Amazon l'emporte par rapport à Apple, parce que Amazon, l'avantage quand vous avez un produit d'Amazon, c'est que vous pouvez ajouter beaucoup plus de fonctionnalités de par les skills. Une skill, c'est une espèce de plugin que vous ajoutez dans votre application téléphone, là, qui accompagne les deux. Hein, ça prend une application pour les faire fonctionner. Ben vous pouvez ajouter des fonctionnalités supérieures. Fait que je vous dirais que pour des fonctionnalités plus avancées, pour des affaires un peu plus évoluées, Amazon l'emporte vraiment haut la main. Par contre, si vous êtes dans l'écosystème d'Apple, avec tout ce qui est HomeKit, vous savez, des Philips Hue, des serrures HomeKit, tout ce qui a le logo HomeKit, ça va bien aussi. Mais de la minute que vous dérogez à ça, Amazon l'emporte haut la main, ça c'est clair. Fait que je te dirais qu'au niveau de l'extension de ce que tu peux faire avec l'enceinte connectée d'Amazon, on va beaucoup plus loin, c'est moins fermé. On le dit hein, tout le temps, Apple, c'est un hôtel, tu sais, et les autres, ben c'est peut-être plus une maison que tu construis toi-même. Bon, il y a les avantages et les inconvénients. L'hôtel, ben t'as pas à faire le ménage, t'as pas à faire plein de trucs. C'est plus clé en main. La maison, ben ça, tu peux plus la personnaliser. Alors, c'est vraiment deux écoles de pensée là-dedans. Faut le rappeler, ça prend une application mobile hein, pour vos téléphones pour pouvoir l'utiliser, ces deux enceintes connectées là. Au niveau des usages du son, je vais le donner. Apple a fait un travail incroyable et surprenamment au niveau des basses et de la richesse du son, l'enceinte d'Apple est juste surprenante pour sa grosseur. Je me plais de plus en plus à écouter de la musique sur cette enceinte-là versus celle d'Amazon. En termes de puissance, c'est comparable. En termes de qualité, je sais pas si je suis biaisé, mais j'ai l'impression, à mon oreille à moi, que celle d'Apple est meilleure. Une fonctionnalité qui est juste le killer feature, la fonctionnalité ultime, c'est de prendre son téléphone quand on écoute quelque chose, qu'on arrive, on tape sur le HomePod et boum, c'est arrivé sur le HomePod mini. ça, c'est juste une fonctionnalité incroyable. J'ai débattu longtemps sur Twitter pour dire « Oui, mais c'est juste un gadget. » Mais non, finalement, on l'utilise. On l'utilise, faut que je l'avoue. Ouais. Je l'utilise, cette fonctionnalité-là. Point faible que je trouve par rapport du HomePod mini versus du Alexa, ben il n'y a pas de prise d'extension. Ce qui fait que si vous avez un appareil filaire qui n'est pas Bluetooth, si vous voulez le brancher dans la console, ben HomePod, vous ne pourrez pas. Par contre, Alexa, vous allez pouvoir le faire. Fait que c'est vraiment encore là deux philosophies. Là.
Il y a quand même des trucs qui m'agacent avec le HomePod mini. Par exemple, moi j'ai une Apple TV HD, donc à un moment ils ont sorti l'Apple TV HD 4, et 4K. La 4K quasiment en même temps. Donc moi quand j'avais pas une télé 4K, j'ai pris une Apple TV HD et je ne peux pas définir les HomePod mini, j'en ai deux dans le salon, comme la sortie audio par défaut. Et clairement, tous les midis ou tous les soirs, quand je regarde un épisode d'une série, je dois aller dans les réglages, enfin dans le petit menu qui s'ouvre à droite de l'Apple TV, et définir que c'est les HomePod mini que je veux choisir. Donc, une fois sur deux, ça marche pas du premier coup, et ça commence vraiment à m'agacer de devoir aller faire ce réglage-là continuellement. Et c'est vrai que s'il y avait une entrée jack, une entrée audio sur les HomePod mini, j'aurais mis un câble et c'était réglé. Donc, c'est vrai que cette fermeture au niveau matériel, ça oblige que le logiciel marche très bien. Et clairement, j'ai pas envie de changer d'Apple TV à cause de ça, mais je me dis, bon sang, mais Apple, ils exagèrent là encore, tu vois, à pas permettre cette option juste de sortir la sortie audio par défaut. J'y en ai parlé sur Twitter avec d'autres gens et ils comprennent pas non plus. Enfin, est-ce qu'il y a une justification technique derrière? Peut-être, mais en tout cas, on la trouve pas. Donc ça c'est plutôt rageant vu que l'Apple TV elle a pas non plus, ça fait pas 7 ans que je l'ai quoi, tu vois, ça doit faire 3 ans, enfin voilà. Donc, je sais pas si toi, tu l'as essayé en la connectant à ton Apple TV.
Alors, je dois être très, très nul. J'ai essayé de la connecter à l'Apple TV et j'ai trouvé la latence de son et d'image tellement rédhibitoire que j'ai déconnecté ça. C'est même pas un usage que j'ai. Alors, est-ce que c'est parce que mon HomePod mini est trop loin de l'Apple TV qu'il y a des technologies qui embarquent pas comme il faut? Faut dire que mon HomePod mini est à peu près 3 mètres de l'Apple TV. Et je pense que c'est peut-être trop loin. Fait que prochain test, ça serait de le rapprocher peut-être. Oui.
J'ai entendu dire que si le réseau Wi-Fi était un peu faible dans la maison, ça pouvait créer de la latence. Parce que moi, j'avais surtout peur de ça. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à me décider de prendre des enceintes AirPlay. Parce que je me suis dit, s'il y a un décalage entre le son et l'image, ça passe par la fenêtre direct. C'est vraiment rédhibitoire. Et en fait, là, vraiment, avec les deux HomePod mini connecté à l'Apple TV, donc via AirPlay, donc qui est basé sur le Wi-Fi, je n'ai aucun décalage à partir du moment où je mets une vidéo YouTube ou une série Netflix ou Disney+. C'est nickel de chez nickel.
J'ai assurément pas trouvé la fonctionnalité. Moi, ça veut pas fonctionner comme il faut. Fait que c'est sûrement probablement dû au fait de ce que tu expliquais là.
Qu'elle est loin et que peut-être ton réseau Wi-Fi est peut-être un peu.
Ouais, c'est ça. Ça doit être totalement rendu à cause de ça. Il y a on va continuer rapidement. Je vais arriver à certaines conclusions là. Ben, je les ai fait tout le long du test. J'ai pas essayé de passer des appels, mais je l'avais déjà fait avec le HomePod. Ça allait bien, mais c'était pas quelque... De toute façon, j'appelle plus au téléphone ou très rarement. Fait que c'est pas vraiment concrètement pour la musique, ça devient mon enceinte connectée de choix. Mais étant donné qu'elle n'a pas tous les usages que j'ai développés à la maison pour des recettes ou des skills avec à Alexa, ben j'ai besoin des deux. J'ai vraiment besoin des deux en ce moment à la maison. Puis besoin, on s'entend. Hein. Il y a des gens qui... Oh, vous entendez Alexa. Tais-toi, Alexa. J'ai vraiment besoin des deux. À la maison, en fonction de mes usages, et puis on s'entend encore une fois, le besoin est à retravailler. Alors, tout fonctionne pas très bien comme la promesse d'Apple. Moi, c'est ça, l'Apple TV, ça fonctionne pas très bien. Il y a certaines commandes vocales qui fonctionnent plus ou moins bien, mais curieusement, il y a des commandes vocales qui passent mieux sur HomePod Mini que sur l'autre d'Amazon. C'est vraiment spécial. Mais bref, il y a pas de gagnant pour moi. C'est vraiment deux enceintes qui sont très bonnes, qui sont au même prix. Petite critique, ce qui est fabuleux, c'est que on nous a habitués aux produits Kred, tu sais, chez Apple, hein, d'avoir les téléphones produits Kred, les watch maintenant produits Kred, les bracelets produits Kred, où ça donne une partie de l'achat à des offres de bienfaisance, je pense, Audrey, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. À la recherche médicale, oui.
À la recherche médicale. Bon, curieusement, il y a deux couleurs chez HomePod. Il y a le gris et le blanc. Et chez Amazon, il y en a quatre. Gris, blanc, une espèce de bleu gris et un produit Kred. Alors, vous pouvez acheter votre enceinte Amazon produit Kred. Et bon, ben là, si vous avez un décor qui s'y prête, ça peut être intéressant. Fait que, deux bonnes enceintes, j'ai été conquis, je pensais pas l'être par HomePod Mini, je vous l'avoue, j'étais très sceptique par rapport à tout ce que j'entendais, je lisais sur Internet, même les débats que j'ai pu avoir sur, mais là je les ai comparés, et définitivement dans mes usages à moi, ça me prend les deux maintenant, et peut-être que je vais me réessayer pour l'Apple TV, mais ça m'énerve que ça me fonctionne pas sur l'Apple TV, il va falloir que je creuse un peu.
Il y a aussi une... La fréquence de ton... Enfin, pas la fréquence, mais si ton Wi-Fi, il est en 2,5 GHz ou en 5 GHz. Il y a un truc comme ça que j'ai vu passer. Il faudra que je te retrouve. Mais c'est un problème de réglage Wi-Fi. Ça, c'est quasiment sûr. Un problème de réseau.
Bon, alors ça serait excellent.
Je profite de tout ce monde qui nous écoute parce que j'ai un bug que personne n'a. Alors, je crie au désespoir. Avez-vous le même bug que moi? Depuis que j'ai mon iPhone 12 mini et les HomePod mini, dès que j'envoie de la musique sur le HomePod mini, et après si j'arrête la musique, je n'ai plus aucun son qui sort de mon iPhone. Et du coup, je suis obligée de l'éteindre et de le rallumer. J'ai vraiment un bug très bizarre. J'ai beau bien mettre la sortie audio iPhone, enfin, je me trompe pas dans les réglages, mais en tout cas, ça... C'est un bug très très bizarre que j'ai que avec l'iPhone 12 mini. Donc si quelqu'un a le même, ben je veux bien un peu de vos retours, voir si vous avez trouvé une solution, parce que c'est vraiment très très bizarre comme comme bug.
Appel à la communauté, aider Audrey avec son bug.
Ouais, là c'est l'iPhone, on l'éteint jamais en plus, donc se dire il faut que je l'éteigne et que je le rallume, même si ça se fait rapidement pour retrouver du son, c'est un peu dommage. Ouais.
Dans les achats que j'ai faits, j'ai eu la nouvelle télécommande de l'Apple TV. Moi, j'ai l'Apple TV 4K. Alors, je voulais pas racheter l'Apple TV 4K. J'ai juste acheté la nouvelle télécommande pour l'essayer. Et mon retour d'expérience, c'est que je l'aime pas. je l'aime simplement pas. Non, je l'aime vraiment pas. D'abord, je la trouve. La nouvelle télécommande est en aluminium. Les angles sont très carrés. Alors je les trouve un petit peu trop carrés à mon goût. À la blague sur Twitter, j'ai dit que j'allais me couper avec tellement c'est anguleux, mais c'était pas loin de la vérité. J'aime pas la disposition des boutons. Il y avait un bouton play pause sur l'ancienne qui était tout en bas à gauche. Maintenant, c'est le bouton mute. Je vous explique qu'il faut que je m'adapte, hein, parce que je suis vieux peut-être, mais je fais souvent mute maintenant sur les émissions. Et je fais souvent mute sur les émissions seulement avec mes AirPods, parce que le bouton mute ne fonctionne pas avec ma télé. Alors, peut-être que j'ai une configuration à faire, soit, mais ça fonctionne pas très bien. Alors, ce dernier produit-là, je suis pas vraiment très heureux de cette télécommande-là. Elle va bien, hein, soit, elle va bien. Mais je me rends compte que le cercle, je l'utilise pas. J'utilise que le pavé tactile, ce qui revient à utiliser les anciennes télécommandes que j'avais, parce qu'elle allait aussi bien avec beaucoup moins de boutons. Je cherche une fois sur 20, une fois sur deux, le bouton Siri sur le côté. On appelle ça de la réticence au changement, mais bref, je l'aime. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai, puis j'ai pas réussi encore à m'habituer. Est-ce que c'est parce que les autres Apple TV dans la maison ont gardé l'ancienne télécommande? Peut-être que c'est ça. Je sais pas, mais bref, j'ai une télécommande de libre, ce qui fait que maintenant j'ai une télécommande de libre. Et qu'est-ce que je veux faire avec cette télécommande de libre? Alors j'ai commencé à fouiller pour vous et j'ai trouvé une application que je n'ai pas encore testée, mais je vais la tester et je vous donnerai des nouvelles au prochain épisode. Ça s'appelle Remote Body. Alors, qu'est-ce que c'est Remote Body? Remote Body, ça permet, à partir d'une télécommande, alors c'est pas juste la télécommande de l'Apple TV, mais c'est sûr que ça va beaucoup mieux avec la télécommande d'Apple TV. Vous pouvez avoir l'Apple TV de deuxième génération, hein, la télécommande, la toute petite, avec une pile 2032. Vous pouvez utiliser les télécommandes Siri des Apple TV de dernière génération. Vous pouvez même avoir la nouvelle télécommande de Alexa et la Harmony de Logitech. Alors, si vous avez une de ces 4 télécommandes-là que je vous ai dit, ben vous allez pouvoir utiliser Remote Body. Remote Body, c'est une application que vous mettez sur votre Mac et qui va utiliser la télécommande pour des actions par application. Alors, que vous ayez Apple Music, que vous ayez toutes sortes d'applications, vous allez pouvoir faire utiliser votre télécommande avec ça. Alors, ça peut être pratique pour ceux qui utilisent le Mac comme Media Center, hein, tu sais, écouter des films dans son sofa, dans son fauteuil à partir d'un Mac, vous allez pouvoir utiliser votre télécommande avec ça. Et vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités de la télécommande dans le confort et faire exactement ce que vous faisiez sur une Apple TV, mais sur un Mac. Alors moi, je vous la conseille. Je vais vous revenir avec ça, mais d'ores et déjà, ça m'a beaucoup attiré, cette application-là.
Est-ce que tu as connu une époque où Apple fournissait une télécommande avec le Mac?
Ben oui.
La télécommande blanche, là.
Et
on avait... Comment ça s'appelait? Frontro, je crois. Une appli multimédia sur le Mac avec un petit fauteuil rouge, là. C'était Frontro, ouais, je crois. Je sais plus. Et en gros, on pouvait piloter sa musique, ses photos et tout avec cette télécommande. Et c'était sympa, hein. C'était vraiment sympa.
C'est un peu l'équivalent, hein. Dans le fond, c'est l'équivalent 2021. Je suis quasi certain qu'Apple va implémenter ça un jour dans son... Je veux pas croire autrement, là. À vendre des télécommandes à la pièce comme ils peuvent le faire maintenant, j'imagine que tu vas pouvoir le faire à partir d'un Mac. Ça, c'est clair. Ça s'appelle Remote Body, R-E-M-O-T-E-B-U-D-D-Y. Et c'est une application qui coûte quand même assez cher, là. C'est 25€. Alors, faut être assez...
Faut en avoir l'usage, oui.
Ouais, c'est ça. Faut en avoir l'usage. Moi, je vais le faire pour Apple différemment. Hein. On dit que ça va faire partie de la catégorie test. J'avais aussi, un vidéo qui a été fait par Nautech. Nautech, c'est une chaîne française de vidéos technologiques. Ils ont maintenant plusieurs types de vidéos. Ils ont fait dernièrement une vidéo sur l'utilisation de la photo de nuit d'un iPhone. On le sait, depuis le iPhone 11, on peut faire des photos de nuit. Mais saviez-vous que le téléphone iPhone 6S en montant pouvait le faire aussi? C'est une limitation, une contrainte qu'Apple a décidé de mettre sur les vieux iPhones parce que pour que la photo soit bonne, il fallait des certains éléments techniques. Alors, il existe des applications que vous pouvez installer sur les vieux iPhones pour bénéficier de photos de nuit de qualité. Et c'est une vidéo qu'on vous met dans les notes de l'émission. Les deux applications s'appellent BlackSight et NeuralCam. C'est deux applications qui vous permettent, avec des vieux iPhones, de faire des photos de nuit sans que ce soit tout noir dans votre photo. Hein. On se comprend, là. C'est vraiment fait
pour et faire sans trépied, ouais.
Ouais, exact. Mm-hmm. Alors, non, c'est ça. Puis ils disaient dans leur émission, là, c'est l'idée, puis c'est un peu comme Apple différemment, là, c'est d'essayer d'utiliser le maximum possible nos applications sans tout le temps acheter. Ben là, ces deux applications, oui, certes, il va falloir les acheter, mais c'est mieux que d'acheter carrément un nouvel iPhone si c'est juste pour ça que vous en avez besoin.
Ouais, j'ai bien aimé aussi cette approche qu'on défend ici d'ailleurs, ou moi sur ma chaîne YouTube, de dire vous avez un appareil, mais en fait il n'est pas périmé parce qu'il n'y a pas la photo de nuit dessus. Il y a des solutions qui existent et du coup on peut garder nos appareils plus longtemps grâce aux applications. Donc c'est vraiment une très bonne idée de voir ça comme ça. Et nos techs, de toute façon, ils font des bonnes vidéos. Moi j'aime bien les vidéos de Jérôme et tout, donc il faut les suivre sur YouTube.
Effectivement. Audrey, on en est à la partie pensée du jour, réflexion personnelle. Que nous as-tu préparé pour ce mois-ci?
Eh bien, écoute, je n'ai rien à part que ça y est, c'est enfin le printemps et qu'on va un peu reprendre une vie normale maintenant qu'on est vacciné, maintenant que tout réouvre, les cinémas, en France du moins, on va commencer à pouvoir retourner sur les terrasses, retourner au restaurant, enfin voilà, on va pouvoir les restaurants, je suis pas sûre, mais on va pouvoir avoir un été, j'espère, qui ressemble à la vie qu'on avait avant le Covid. Donc il faut en profiter, et profiter pour voir les gens qu'on aime, et voilà, profiter de la vie, quoi. C'est ça ma pensée du mois, ça va être ça.
c'est beau. J'ai pas envie de partager ma pensée du mois que j'avais pas encore mis dans les notes d'émission, mais je vais le faire pareil. C'est pas à la hauteur de tes ambitions. Ça s'appelle c'est pour les développeurs, hein. C'est pour les designers. C'est vraiment un nouveau courant qui est en train de se faire dans la technologie. Puis je le partage sur Apple différemment. C'est de penser à développer des applications de manière éthique. Et puis de manière à ce que ça consomme pas trop d'énergie. C'est le regroupement digital éthique qui a fait cette plateforme-là, qui est dans le fond une plateforme designer éthique, excusez-moi, qui est une plateforme qui ressemble un peu à YouTube, mais c'est pas YouTube, c'est du peer-to-peer. Et là-dedans, vous avez plusieurs conférences sur comment les développeurs peuvent travailler pour que on soit un peu plus éthique dans la consommation de l'énergie qu'on va avoir. Alors ça va un peu de tout, hein. Ça va dans comment faire un site web. Est-ce que les fonctionnalités de ton site web sont vraiment toutes nécessaires? Est-ce que les pop-up que tu mets sont finalement ultra nécessaires, ou ça bouffe plus de la bande passante à tes auditeurs? Bref, c'est toutes ces questions-là. Puis ça va aussi dans des questions du genre. Le SMS, finalement, c'est une pas mauvaise technologie. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'applications des fois pour envoyer des notifications? Peut-être pas. C'est tous ces aspects-là du développement qui sont intéressantes, mais sur un point de vue, sur un axe éthique. Et plusieurs vidéos. Évidemment, il y a des... c'est pas tout le temps en lien avec ce qu'on nous on préconise avec Apple, mais bon, il y a du Framasoft, il y a tout ce vent de développement libre et éthique qui sont souvent salués là-dedans. Alors, si vous êtes un développeur, si vous êtes un créateur, parce qu'il y a beaucoup de créateurs dans le domaine Apple, ça peut-être être intéressant de vous imprégner d'une nouvelle façon d'aborder vos créations numériques. En regardant l'aspect éthique, parce que oui, on a notre rôle à jouer en tant que créateur ou travailleur du numérique dans ce domaine-là.
Oui. Ben oui, tu vois, je me suis fait la réflexion sur ma plateforme où j'ai forcément envoyé pas mal d'images. Et une capture d'écran aujourd'hui, c'est très lourd, surtout sur un écran Retina. Et j'ai traité toutes mes images pour qu'elles soient super légères. Et je me suis dit, le temps que ça me prend, c'est du temps gagné pour les gens qui ont une connexion Internet un peu faible. Et puis, c'est de l'espace de stockage en moins sur des serveurs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des connexions Internet tellement rapides qu'on fait plus attention. On envoie une capture d'écran qui fait 10 mégas par mail et où on poste ça sur Twitter et on fait pas attention. Et en fait, c'est clair que quand on est un créateur de contenu, on a vraiment une responsabilité quant au poids de nos vidéos. Moi d'ailleurs, j'ai fait des vidéos en 1080p pendant très longtemps. Ça fait à peine quelques semaines que je suis passé en 4K sur YouTube. Mais clairement, ça m'arrive de reposter en 1080p parce que au final, c'est suffisant pour montrer ce qu'on a montré. On n'est pas Spielberg, quoi. On fait pas des films, films magnifiques avec des paysages, etc. Donc, on peut très bien limiter nos possibilités, même si techniquement, on peut faire plus grand, plus beau. Voilà, on peut très bien se dire, ça, c'est ma limite et c'est suffisant et je l'assume, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment bien sûr de designer éthique. C'est vraiment un très bon nom qu'ils ont choisi. Je pense qu'il y a pas mal de développeurs qui nous écoutent et qui seront contents de découvrir ça.
Ouais, que ce soit des développeurs ou que ce soit des créateurs d'interface, il y a des éléments qui sont importants. Dans le site Designer Éthique, où on passe plusieurs éléments d'un manifeste, hein, si on fait un espèce de manifeste qui t'explique comment on devrait développer et ainsi de suite. Tu sais, on voit exemple l'application de la BBC ou l'application de podcast de la BBC. Ils demandent aux utilisateurs pour écouter de l'audio. Quand la personne, l'utilisateur, est sur son application d'audio, elle veut écouter son podcast, ben là, boum, on lui demande, est-ce que tu veux l'écouter en haute qualité ou en basse qualité? Ben, tu sais, designer éthique t'explique que c'est de l'audio, là, c'est de l'audio, c'est du parler. On n'a pas nécessairement besoin d'une qualité high-res pour écouter une discussion entre deux personnes. Tant que le son est bien enregistré, on comprend tout ça. Mais ça sert à rien de mettre autant de poids dans ton fichier audio. Fait qu'il t'explique toutes ces démarches-là. Et tu prends conscience, même des fois quand t'es pas développeur, quand t'es juste utilisateur, tu prends conscience que, OK, ouais, des fois j'ai des usages qui sont complètement cons par rapport à la consommation d'énergie pour produire. On comprend, le domaine de la tech consomme en ce moment 4% de l'énergie globale qui est produite pour vivre. Et c'est en augmentation de 8 à 12% par année. Ce qui veut dire qu'on va continuer à en prendre de l'espace. Alors Audrey, dans des dernières émissions, vous expliquiez qu'il fallait faire le ménage de vos photos. C'est des choses qu'on fait, des ménages de vos courriels, de vos mails, dans vos boîtes, parce que ça prend de l'espace. Bon ben, c'est toutes ces démarches.
Tout ce qui est lié au stockage, oui. Ouais. Après, le streaming, en fait, ça ne consomme pas d'énergie. C'est vraiment le fichier qui est stocké sur un serveur. C'est sûr que s'il est 3 fois plus gros que ce qui pourrait être, comme tu disais, un fichier audio, n'a pas besoin d'être si gros ou de si haute qualité juste pour un podcast, par exemple. Donc, c'est vraiment l'espace occupé par des serveurs. Et plus il y a d'espace occupé par des fichiers, et plus il faut de serveurs, et donc plus il faut d'électricité, quoi. Le streaming, ça reste... on dit, par exemple, que Netflix est pollueur, etc. Mais en fait, c'est pas notre streaming, c'est les machines qui font tourner leurs serveurs. L'électricité qui fait tourner leur serveur, qui n'est pas forcément verte. Et le problème, il se situe là, il se situe pas dans... Enfin, bien sûr, plus il y aura de gens à consommer, plus ils vont avoir besoin de serveurs, mais le streaming en lui-même n'est pas consommateur d'énergie.
C'est à mettre dans la perspective que, tu sais, ton ordinateur est allumé, il télécharge la bande passante, les serveurs de relais téléchargent la bande passante, l'électricité. En bout de ligne, c'est pas juste un élément de tout ça, je comprends, mais c'est une globalité. Faut juste réfléchir à, quand on consomme sur Internet des médias, que ce soit électronique ou qu'on consomme tout court, ben, faut réfléchir. Puis c'est un peu sur la piste que je voulais vous amener pour ce mois-ci.
Oui. Non, mais c'est bien. Très bonne initiative, ouais.
Audrey, si on veut te rejoindre, si on veut discuter avec toi, et surtout si on veut régler ton bug avec ton iPhone, où est-ce qu'on te rejoint?
Alors, vous pouvez m'envoyer la solution à sur Twitter, @AudreyCoulot, yes. Tout attaché. Et puis, mon site web qui a fait peau neuve d'ailleurs en même temps que ma plateforme, formationapple.fr. Vous pouvez y aller. Et toi, Matt?
Cool. Moi, c'est profduweb.com. Et vous allez voir, sur profduweb.com, j'ai fait un effort dernièrement pour justement être très léger sur ma plateforme. C'est très minimaliste.
Ah oui.
C'est en phase avec ce que je la promotion de, que je fais. Alors, vous irez voir mon site ultra minimaliste qui consomme très peu de courant et très peu de stockage.
Bravo, bravo, je vois ça. J'ai du boulot. On vous bon, n'oublie pas qu'on a un challenge pour trier nos photos. Hein. Je t'attends.
On a un challenge pour trier les photos. Je m'attends à ce que les auditeurs aussi, ça c'est mes attentes envers vous, les auditeurs qui vous nous écoutez, de nous donner vos résultats. Est-ce que vous êtes plus Mac, iPad, iPhone? Dites-moi, dites-nous et faites avancer un peu le débat. Ça va être intéressant sur toutes nos plateformes, que ce soit en audio et ainsi de suite. Et on se revoit le mois prochain et on va parler de la WWDC certainement, Audrey. Hein?
Ah oui, avec plaisir. On a hâte, ouais.
Allez, ciao, ciao tout le monde. Bon mois.
À bientôt.